Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Parole de citoyens, radio citoyenne proposée par Radio Andenne et Radio Dio dans le cadre des dispositifs politiques de la ville de la Loire et de Saint-Étienne Métropole. Nous nous trouvons aujourd'hui au cœur du quartier de Montrénault à Saint-Étienne, à la salle Aretha Franklin, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Ici, et depuis la fin de cette matinée, aujourd'hui le collectif Vivre Ensemble à Montrénault anime des temps conviviaux de partage entre les habitants. Et pour en parler dans cette table ronde radiophonique, nous accueillons Jennifer Poncet, Jean-Fabien Reynard, Naïma Berkoun et Marie-Claire Roux. Alors, on va débuter très simplement la question qu'on vous pose peut-être très régulièrement. Qu'est-ce que vivre ensemble à Montrénault ?
Vivre ensemble à Montrénault, c'est être bien avec les habitants, avec les associations aussi. Et avec tous ceux qui œuvrent sur le quartier de Montrénault.
Alors, pour entrer dans les détails, un collectif, c'est un ensemble de personnes, un ensemble de structures, de représentants, d'habitants du quartier. Ça existe depuis 2018, me semble-t-il. Pourquoi, avec toutes les associations qui peuvent exister ici et là, pourquoi avez-vous décidé de créer ce collectif avec ce nom ?
Moi, j'aimerais dire qu'en fait, les habitants voulaient donner de leur temps et de leur savoir-faire à d'autres habitants du quartier pour animer un petit peu le quartier, un peu plus en fait, en plus des associations qu'il y avait déjà présentes.
D'accord. Ça partait de quel constat, de quelle discussion entre vous ? C'était qu'il manquait des choses ? C'était qu'il y avait peut-être des choses un peu disparates ?
Là, je peux répondre parce que c'est parti du fait que le centre social a été liquidé par la préfecture en 2015. Donc, nous sommes tous repartis de la base. Et la base, c'était le conseil citoyen. Donc, 4 membres du conseil citoyen sont entrés dans une association qui s'appelle aujourd'hui le collectif Vivre Ensemble à Montrénault. Et 4 membres sont venus du conseil de maison de la GAZEF qui faisait l'animation pour la jeunesse sur le quartier. Et on s'est constitué en association collégiale, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des membres de cette association qui sont responsables de son fonctionnement.
Alors ces membres-là, qui sont-ils ? Est-ce que ce sont des personnes morales ? Est-ce que ce sont des représentants de structures ? Est-ce que ce sont des habitants lambda qui veulent s'investir? Expliquez-nous un peu la constitution du collectif dans son caractère administratif.
Alors je peux en parler puisque je suis le représentant légal. Nous sommes partis d'un constat, c'est que si le nouveau centre social était fait en l'absence des habitants, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc l'idée a été de dire il faut mobiliser les habitants. Et c'est les habitants qui vont créer eux-mêmes, répondre à leurs besoins et créer les ateliers dont ils ont besoin avec les habitants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 17 ateliers et 43 bénévoles qui travaillent dans ces ateliers.
Peut-être pour nos auditeurs et pour se rafraîchir la mémoire ou pour même être au courant, que s'est-il passé, sans tous les détails, que s'est-il passé avant cette date de 2018 à Montrénault avec ce centre social ici qui a été liquidé, qui est revenu sous un autre nom, géré par d'autres personnes. Expliquez-nous en gros l'historique et quels ont été les soucis qui sont développés par cette incertitude sur un lieu finalement entre guillemets imposé et non pas choisi par les habitants.
Disons qu'à Montrénault, les habitants sont naturellement portés à se réunir et à être solidaires les uns des autres. Ça, c'est une des caractéristiques de ce quartier qui est, on peut le rappeler, le plus beau quartier de Saint-Étienne puisqu'on a une vue magnifique sur la ville. Il se trouve que les habitants qui faisaient partie de l'ancien centre social se sont trouvés tout à fait déçus de l'issue de la disparition de leur centre social. Et il a fallu énormément de temps pour remobiliser, les retrouver et leur donner confiance pour que, en leur expliquant que c'est à eux maintenant de régler leurs problèmes et de trouver des solutions à leurs problèmes, ça a été énormément de difficultés, de persuasion. Et aujourd'hui, c'est jamais gagné, mais on a beaucoup avancé.
Alors justement, un centre social est néanmoins, comment dire, ou a pour vocation bien de aussi tisser du lien, de faire du social, c'est dans son intitulé même, et donc est censé fédérer et pouvoir réunir, rassembler précisément via des activités et autres, eh bien ses habitants et habitantes de proximité. Vous semblez être né sur, en ce qui concerne le collectif Vivre Ensemble, sur les cendres quelque part du centre social. Est-ce que c'est une toute autre équipe qui a pris part à cette nouvelle aventure, ou est-ce que c'est une remobilisation et refonte avec peut-être des personnes déjà parties prenantes des aventures précédentes pour tenter de remettre en marche une nouvelle dynamique?
Il y a les deux. Donc il y a des nouvelles personnes, mais il y a aussi des personnes qui étaient déjà mobilisées, qui étaient bénévoles dans les associations qui ont disparu. Mais ça a pris du temps pour refaire confiance. Mais tout le monde travaille ensemble maintenant.
D'où venait le problème de manque de confiance ou de défiance vis-à-vis de cette structure préexistante ?
En fait, si vous voulez, il y a un fossé qui existait entre les financeurs et les habitants sur le quartier. Et les dénonciations anonymes, les soupçons, etc., ont fait que les financeurs n'ont plus confiance dans l'équipe qui était en place et du coup a décidé de fermer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train d'inventer un nouveau centre social à Moreno, mais et qui peut peut-être faire école dans d'autres quartiers, puisqu'en fait, on a mis en place un groupement d'intérêt public. Alors ce groupement d'intérêt public, il rassemble dans la même instance les financeurs. Donc on a l'État, bien sûr, la ville, la métropole et le département. Et il rassemble les associations du quartier. Donc on pourra en parler, Marie-Claire en parlera, mais ça réunit l'EPEP 42, ça réunit le PIMS, ça réunit la sauvegarde, prévention et la pépinière, et le collectif. Dans la sphère, il y a également le CLJ qui travaille avec nous. Donc le CLJ, c'est la police nationale. D'accord. Qui anime fait de l'animation pour les ados. Et tout ça, aujourd'hui, tout le monde est rassemblé. Mais celui qui est, j'allais dire, le nœud dans cette histoire, c'est le collectif et c'est surtout les habitants qui composent ce collectif.
Alors, restant dans ce JIP, comment se déroulent finalement vos réunions, vos prises de décision? Expliquez-nous, parce que c'est quelque chose d'assez rare finalement pour être bien expliqué. Comment on se réunit, comment on décide tous ensemble avec ces différents représentants, comment on avance en fait sans qu'il y ait peut-être des freins ici et là, de l'absence d'une personne ou autre? À quel rythme et récurrence vous vous réunissez ?
Alors, il se trouve qu'avec le confinement, on a effectivement eu des difficultés pour se réunir. Mais globalement, on a un bureau qui était composé à la base de 4 personnes du Conseil citoyen et 4 personnes du Conseil de maison de la GAZEF et un conseil d'administration qui est composé aujourd'hui et qui est toujours composé aujourd'hui, c'est une particularité, de toutes les personnes qui animent les ateliers. Donc comme il y a 2 personnes par atelier, donc aujourd'hui on a un conseil d'administration qui n'a pas besoin entre guillemets de se réunir, puisqu'il y a des réunions qui se font pour faire le point sur les animations, faire le point par exemple sur la journée du 8 mars. Et donc en fait, tout le travail est fait par les habitants quand ils se réunissent, et les habitantes bien sûr, puisque c'est des membres très importantes. Elles ont été à l'initiative de beaucoup de choses, les habitantes du quartier de Moreno.
Alors, on va peut-être parler aussi de cet investissement de la part des bénévoles pour ces ateliers. Naïma et Jennifer, expliquez-nous un peu la tenue de vos ateliers. Naïma, ce sont des ateliers avec des femmes de conversation, c'est ça ?
Oui, pas seulement avec des femmes, il y a aussi des hommes.
Ok.
De tout âge. Là, dernièrement, on a eu un jeune de 20 ans qui vient de l'étranger et qui voulait s'améliorer dans la langue française. Donc, et puis on a des dames de tous horizons, de toutes nationalités, et elles ont un besoin différent. Certaines veulent surtout apprendre à parler pour pouvoir tenir des conversations avec les différentes structures, les médecins, les professeurs, voilà. Et puis d'autres qui savent parler, mais qui veulent perfectionner leur français en ce qui concerne les conjugaisons, la grammaire. On a de tout.
Alors pourquoi est-ce que c'est vous qui avez proposé cet atelier-là, ou est-ce que c'était une idée du collectif en demandant qui pourrait l'animer ?
Alors pour ma part, je suis arrivée, il était déjà existant l'atelier, donc j'ai repris un petit peu les rênes avec Nadia.
D'accord.
Et sinon, il existait déjà, oui.
Moi, j'ai fait partie de cet atelier, notamment. Ouais. Et au début, donc, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas aider les enfants, mmh. ou qui ont besoin aussi de communiquer en français. Et ce sont des personnes qui l'ont demandé d'un côté, mais il y avait déjà une équipe de dames qui s'occupait de la bibliothèque à l'époque de la GEF et qui sont venues aider pour justement aider ces personnes.
D'accord. Alors si l'on revient sur cet atelier-là que vous animez, Naïma, c'est à quelle récurrence et dans quel lieu ? Parce que c'est aussi ça la particularité de vivre ensemble à Montréal, c'est que ça se partage sur différents endroits, différents lieux. D'ailleurs, vous êtes encore à la recherche, on en parlera après. C'est à quel moment de la semaine ?
Alors ça se tient sur le forum, sur la place du forum, au sein du collectif, et c'est une fois par semaine, tous les lundis matins.
D'accord. Et vous accueillez combien de personnes ?
Alors, on a une dizaine de personnes, parfois 12. Après, pendant le confinement, on a eu moins de personnes qui sont venues. Voilà, le confinement a fait que les personnes ont un petit peu...
Ont un petit peu eu peur.
Un peu comme tout le monde, de toute façon, on était un peu obligé à rester chez nous.
Juste peut-être une précision, parce qu'on ne l'a pas évoqué, dans ce collectif donc, qui existe de façon plutôt informelle, juridiquement, c'est un engagement bénévole. Est-ce qu'il y a néanmoins des personnes qui peuvent être salariées, prestataires pour des interventions et autres ? Comment vous fonctionnez ? Parce qu'en termes de gouvernance, ça pose aussi des questions. Et notamment sur cet atelier, Naïma, vous êtes entièrement bénévole. C'est
oui.
vraiment les habitants oui. qui sont emparés de cette question, qu'il l'a développée sous forme d'atelier, d'expression, d'échange, de conversation, comme vous l'appelez. Oui. Mais qui c'est autogéré, quelque part, entre guillemets.
Voilà, c'est complètement géré par les bénévoles. Enfin, la plupart des ateliers sont gérés par les bénévoles. Et on a deux ou trois ateliers qui sont faits par une structure extérieure, dont le Qigong et le Pilates.
D'accord. Pour le reste, c'est entièrement bénévole.
Oui.
Il n'y a pas appel à des compétences spécifiques pour intervenir et encadrer des divers ateliers.
Alors c'est un petit peu la difficulté aujourd'hui, c'est que malgré toute la bonne volonté des habitants, on s'aperçoit que parfois ils ont des difficultés pour maîtriser un groupe, comment faire régner l'ordre un petit peu, et notamment sur les...
Puisque d'ordre, c'est en tout cas de techniques d'animation.
Oui, des techniques d'animation, mais on voit par exemple sur l'aide aux devoirs, on est vite débordé par les enfants qui, ils ne sont pas toujours disciplinés pour écouter ce qui va se passer. Mais donc il y a ce soutien qu'on voudrait apporter aux habitants qui animent et un peu plus de technicité dans ce qu'ils savent faire ou qu'ils ont envie de faire. Voilà.
Alors chacun amène son savoir-faire. Jennifer aussi, vous apportez votre savoir-faire avec des ateliers que vous animez. Quels sont-ils ?
Alors moi, je suis professeure de fitness. Alors j'avais proposé cet atelier au tout début. Du collectif, hein, quand ça a démarré, sur un constat en fait que beaucoup de femmes voulaient faire du sport et qui n'osaient pas aller dans des salles de sport ou dans des clubs. Donc là, je pratique le lundi soir et le vendredi matin, ici sur la salle Aretha Franklin. Donc le lundi soir et vendredi matin, alors j'ai choisi ces deux créneaux parce que bon, à côté de ça, je travaille. Et puis c'était surtout aussi pour les actives et les non-actives. Voilà. Pour l'instant, j'ai environ entre 10 et 15 femmes qui viennent. Alors, c'est ouvert à tout le monde, hein, sauf que là, j'ai que des femmes pour l'instant. Voilà, ça fonctionne depuis bientôt 4 ans. Et voilà, donc on est en binôme avec Elodie. Et donc, elle, un peu plus sur des pratiques, un peu plus sur du yoga. Donc, on fait un petit peu de stretching à la fin du cours. Et puis, moi, c'est un peu plus sur du cardio et du renfo musculaire.
Alors, on a bien compris que ça va s'adresser à des demandes des habitants et surtout des propositions d'animateurs d'ateliers, parce qu'effectivement, on peut avoir beaucoup d'idées, mais si personne n'est capable de les animer, c'est compliqué. Sur les autres ateliers qui existent, ça représente quoi ? On a parlé des cours de soutien aussi pour les élèves. Qu'est-ce que vous proposez d'autre ?
Il y a un atelier cuisine, par exemple, qui permet aussi...
Allez-y.
Il y a un atelier cuisine qui accueille aussi différentes personnes qui peuvent aussi bien pratiquer la langue française et aussi montrer la diversité du quartier par les recettes.
Ouais.
Et donc, c'est une sorte d'échange aussi. Donc, voilà.
D'accord. Quoi d'autre encore ? Qu'est-ce qui est proposé ?
Il y a l'atelier... récent, un atelier récent donc de danse, par exemple.
Ok.
Et là, les habitants ont trouvé qu'ils ont besoin de se défouler, sans être. C'est pas un atelier qui est géré par un professionnel.
Mm-hmm.
Mais les habitants le soir, donc vendredi soir, se défoulent, donc viennent à la salle ici, à côté, de 19h à 21h.
D'accord.
Et donc, ça leur permet d'échanger, ça leur permet aussi de danser, bien sûr, et d'être à l'aise.
Et de se défouler un petit peu, se vider la tête.
C'est exactement ça.
Jennifer.
Ce qu'on peut préciser surtout, c'est que c'est proposé par des habitants qui sont volontaires et bénévoles, mais c'est surtout des habitants passionnés par ce qu'ils font.
Exact.
Naïma.
Alors, parmi les autres ateliers, il y a aussi l'informatique, il y a la couture. Il y a l'atelier senior aussi adressé aux personnes de plus de 60 ans, voilà, qui se déroule le mercredi après-midi. Il y a aussi le café des pères. Bon, c'est surtout les hommes qui s'y trouvent les soirs, qui s'y retrouvent. C'est un peu comme l'atelier salon de thé. Mais bon, c'est surtout pour les papas qui, en fin de journée, après le travail, se retrouvent. Et puis aussi, les bénévoles aussi, on participe aussi à l'organisation des sorties qui se déroulent tout au long de l'année, aux événements aussi, comme aujourd'hui la journée de la femme, les événements aussi de fêtes de quartier, le cinéma en plein air. Et puis tous les dimanches, il y a le cinéma qui est proposé aux habitants ici, dans la salle Aretha Franklin. Donc, les bénévoles du collectif s'en occupent aussi. Voilà.
Alors, moi, une petite question sur cette idée de collectif et le fait de demander aux habitants leur possibilité de faire et leur volonté de faire les ateliers. Quand on fait des cours un peu de fitness, il faut avoir une habilitation, j'imagine qu'il faut avoir un cadre aussi légal d'assurance avec les participants. Ça rentre comment ? On paye une adhésion à Vivre Ensemble à Montréno ?
Oui, alors donc il y a une adhésion symbolique, mais qui permet effectivement de faire assurer, d'avoir une assurance individuelle, donc de 6€ par personne et 1€ de plus par membre de la même famille. Donc c'est très bas, mais en même temps, c'est ce qui nous permet de faire cette gestion d'assurance pour tous les gens qui participent aux activités. On a oublié une activité qui est importante, et notamment sur Montréal, c'est la musique. Donc on a un atelier musique, et sur Montréal, il y a une longue tradition musicale. Il y avait des groupes, notamment des groupes d'Afrique du Nord, des gens qui mélangeaient cette musique européenne et un peu nord-africaine. Et ça a disparu un petit peu de l'environnement. Mais il y a cette nostalgie où si on avait une salle qui était adaptée, je pense que ça repartirait de plus belle.
Alors, j'avais aussi une question sur les, à nouveau à contrario peut-être d'un centre social qui est force de proposition avec une sorte de programmation établie qui s'adresse à tous et toutes finalement et à laquelle le public peut répondre ou non, mais qui est censé répondre aux besoins aussi. À l'inverse, vous, vous êtes à la fois participatif et actif véritablement, c'est-à-dire que c'est aussi en, vous répondez directement aux besoins parce que vous vous emparez de ces divers sujets et en fait proposition aux habitants habitantes. Une question qui se pose, on voit beaucoup dans les centres sociaux, c'est les publics cibles. Et pour exemple, je pense aux jeunes, à la jeunesse. Les centres sociaux bien souvent s'adressent au jeune public, on va dire de la petite enfance à l'adolescence. Qu'est-ce qu'il en est ici du quartier et du collectif peut-être, parce que j'imagine que ce n'est pas forcément évident pour les jeunes, eux, de s'emparer du projet, des espaces et de faire propositions et programmations. Donc finalement, qui s'adresse aux jeunes ou réellement s'investissent-ils et sont partie prenante de l'aventure du collectif ?
Je peux répondre peut-être. Pour les jeunes, donc il y a, comme on a dit, donc on a parlé du groupement d'intérêt public. Et c'est le centre social en question, mais qui est composé de plusieurs associations. Donc il y a des associations dédiées aux jeunes, dont la sauvegarde de 42. Donc il y a la prévention, la pépinière jeunesse aussi. Et donc c'est eux surtout qui s'occupent des jeunes. Et nous, et les PEP, donc, qui ont des plus petits, donc c'est par âge. Et donc, il y a de l'animation, il y a de la prévention, mais il y a aussi...
Alors là, ce sont des cadres très spécifiques,
oui, voilà.
Mais en termes de loisirs,
oui.
Est-ce que des...
C'est la pépinière jeunesse.
Des choses sont proposées, alors sous quelle forme, par exemple, pour présenter la pépinière, parce que tout le monde ne connaît pas... à la fois ici et peut-être d'ailleurs le poste.
Alors la pépinière jeunesse, c'est, ça aussi c'est une invention, une originalité sur Moreno. C'est la sauvegarde qui est en charge d'animer cette pépinière. Donc l'idée c'est de proposer des activités aux jeunes qui n'ont pas l'habitude de faire. Par exemple, ils travaillent énormément sur l'image. Donc ils sont allés à Arles, on leur a montré
En
photographie, absolument. Ils ont fait également du canyoning, ils font des activités qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais en même temps dans lesquelles ils participent. Je sais qu'on a créé depuis peu de temps, sur l'impulsion de Siam Labiche, un journal de quartier. Et ce journal de quartier, du coup, les jeunes font des photographies, ils font des articles, ils participent activement.
À la distribution aussi.
À la distribution, oui. Oui.
Alors, bah vous tendez la perche. Effectivement, vous venez de citer Siam Labiche, qui est vice-présidente de Saint-Étienne Métropole et également adjointe à la mairie de Saint-Étienne. Moreno, un quartier de 7000 habitants, me semble-t-il, un quartier souvent regardé, souvent montré, souvent commenté. Comment vous agissez avec les politiques pour montrer ce que vous faites et puis quel regard ils ont ? Est-ce que vous avez totale liberté ou est-ce que quand même, quand vous impulsez des choses, vous avez à discuter, non pas demander l'autorisation, mais je pense que c'est dans le cadre du GIP que c'est discuté ensemble. Mais voilà, les relations avec la municipalité, comment elles se font et comment elles se sont construites depuis la création de Vivre Ensemble à Moreno en 2018.
Ben disons que tout est parti en fait du Conseil citoyen. Le Conseil citoyen, c'est quand même une loi, la loi Lamy, qui a imposé à la ville de Saint-Étienne de travailler avec un conseil citoyen local. Or, c'est vrai qu'au début, je pense que les élus ont trouvé assez difficile de dire est-ce qu'ils ne vont pas être là pour critiquer, est-ce qu'ils ne vont pas faire doublon avec le conseil de quartier. C'est quand même une autre instance. Et en fait... Tout s'est bien passé puisque les élus ont considéré que les citoyens dans les quartiers avaient leur mot à dire, mais en même temps, ils faisaient de la co-construction avec les élus. Et à partir du moment où la confiance s'est établie, eh bien, j'allais dire, tout s'est très, très bien passé. C'est pour ça que le fait qu'il y ait des membres du conseil citoyen qui soient à l'intérieur du collectif font que il y a un grand respect, une grande confiance entre les élus et les personnes qui sont dans ce collectif.
Alors, notre rendez-vous se passe ce 8 mars en Journée internationale des droits des femmes, où également vous avez souhaité proposer un certain nombre d'animations qui ont débuté fin de matinée, début d'après-midi, c'est jusqu'à tard ce soir, avec une projection et aussi un débat. Un événement tel que celui-ci, vous arrivez à mobiliser combien de personnes? On est un mardi, hein, il peut y avoir l'école, des activités. Combien de personnes vous mobilisez pour ce jour?
Plus de 300, parce que ce n'est pas la première fois. Et puis, des gens, les habitants, dès qu'il y a quelque chose, sont mobilisés sur tout ce qui se passe sur le quartier. Et notamment sur, aujourd'hui, la Journée internationale des droits des femmes est consacrée surtout sur l'action de la femme sur le quartier. Et donc, les femmes se mobilisent. Mais les hommes aussi, d'ailleurs, qui doivent respecter ça et encourager les femmes. Donc, on aura au moins 300 personnes.
Alors, un événement comme celui-ci, fédérateur, qui va rassembler un peu tout le monde, vous en organisez combien tout au long de l'année, au-delà des sorties, mais des animations où tout le quartier est invité? Et puis, dans quel type, à quelles occasions est-ce qu'il y a la fête, on ne va pas dire la fête nationale de Montréal, mais est-ce que voilà, vous essayez d'instaurer des événements récurrents?
Il y en aura au moins 5.
D'accord.
Parce que le 18 juin, donc il y aura la fête de la musique.
Pour la première fois, Moreno.
Pour la première fois. Et puis, comme disait Jean-Flavien tout à l'heure, donc il y a des musiciens qui sont mobilisés toute l'année sur le quartier, et bénévolement.
Donc avec des groupes issus du quartier, véritablement?
Il y aura aussi,
extérieurs même.
Il y aura des groupes extérieurs, mais il y aura aussi une part des habitants du quartier. Et puis, prochainement, on aura aussi le Laïd.
D'accord.
Pour rassembler les familles aussi après le Ramadan. C'est une période assez de jeûne, mais il faut se rassembler après pour aussi fêter la fin du Ramadan.
Alors, le quartier de Montréal, c'est aussi un quartier en pleine mutation, avec des constructions qui ont eu lieu dans le cadre de l'ANRU.
Et des déconstructions.
Et des déconstructions. La tour plein ciel, là, qui marquait un peu le paysage, qui a disparu il y a quelques années. Donc, ce quartier change, ce quartier se transforme, ce quartier évolue. On parlait de lieux dans lesquels vous souhaitez vous rassembler, plusieurs petites salles ici et là, l'accès à cette salle Aretha Franklin pour des activités qui nécessitent un peu plus d'espace. Est-ce que là aussi, vivre ensemble à Moreno peut être moteur de construction de nouveaux espaces ou tout du moins d'aménagement de lieux peut-être déjà existants?
Normalement, il y a un immeuble qui va être construit qui va rassembler en fait toutes les activités jeunesse sur le quartier Saint-Saëns. Et on voudrait profiter de cette création pour essayer d'imaginer une centralité pour un quartier qui est collinaire. Et donc, c'est difficile pour les gens de se rencontrer en l'absence de transports en commun un peu plus, mis à disposition et plus mobile. Le car, c'est indispensable, mais il ne correspond pas forcément toujours aux déplacements que les habitants souhaitent faire. Et puis, il y a le problème des locaux, puisque nous, c'est bien beau de démarrer avec plus de 300 adhérents aujourd'hui, mais avec trois petits locaux de 40 mètres carrés, on arrive vite à ce que les gens soient obligés de quitter une salle pour que d'autres viennent pour faire présenter un autre atelier. Donc aujourd'hui, on est en demande auprès de la municipalité, puisque c'est la municipalité qui nous met à disposition les bâtiments. C'est vrai que nous avons la salle à Aretha Franklin, mais que nous sommes obligés de partager avec les PEP 42. Donc, ce n'est pas toujours simple. Alors, heureusement qu'on s'entend bien. Il n'y a jamais de bagarre.
Non, mais c'est une logistique. Mutualiser pour trouver les
occupations
possibles.
Est-ce que ça peut être un frein au développement de la structure? Oui.
Parce que, justement, on veut s'étaler. Mais on n'a pas de place. On ne va pas dire aux habitants, donc venez on va refuser les habitants alors qu'ils veulent venir pour faire des activités. Ça, c'est un peu compliqué. Et puis le quartier, comme on dit, donc il y a 9000 habitants.
Ah oui,
je me suis dit. C'est pas simple de.
Ouais. 9000.
Et donc on aurait aimé avoir des locaux un peu plus spacieux, mais aujourd'hui, donc on n'en a pas.
Oui, et puis je pensais à d'autres habitants qui voulaient proposer d'autres animations ou d'autres ateliers. En fait, à l'heure actuelle, ce ne serait pas possible en termes de créneau horaire. En fait, les salles sont toutes prises, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc si on veut élargir un peu les possibilités en termes d'ateliers, pour l'instant, ce ne serait pas possible sans locaux supplémentaires.
Donc ces locaux dont vous avez mis à disposition par la ville, c'est donc Aretha Franklin, et vous vous appuyez sur quelle autre structure existante? On ne les a pas cités, je crois.
On a des locaux sur la place du Forum, en haut. D'accord. Donc c'est trois petites pièces de 40 mètres carrés. On a annexé la salle d'une autre association qui a bien voulu nous céder. Là, on a notre atelier couture et on fait du Qigong. Puisque c'est un coin de bâtiment donc qui est plus tranquille, et ça nous permet de laisser les machines à coudre en permanence sur les tables. Mais donc aujourd'hui, on a aussi un défilé de mode qui a été préparé par l'atelier couture, et nous en sommes très fiers.
Alors, on va peut-être terminer cette émission. Des auditeurs qui souhaitent avoir plus de renseignements quant à l'association et ce collectif Vivre Ensemble à Montréno, au-delà du journal que vous publiez, au-delà de tout ça, est-ce que vous animez aussi peut-être sur Internet des espaces où l'on peut découvrir, et peut-être ça peut donner d'autres idées à d'autres habitants de différents quartiers? Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous faites?
Nous, on a déjà un site internet, donc du collectif Vivre Ensemble à Moreno, où il y a toutes les informations, s'il y a des gens qui veulent justement mieux nous connaître. Et puis, on a une page Facebook aussi.
Merci. Donc, l'adresse du site, c'est cvem.org, et la page Facebook, c'est Collectif Vivre Ensemble à Moreno. Voilà.
Et à la fin de cet entretien, nous rencontrons Siam Labiche, vice-présidente de Saint-Étienne Métropole et adjointe au maire de Saint-Étienne, qui nous commente et pose son regard sur le collectif Vivre Ensemble à Montréno.
On part de très très loin. À Montréno, il y a eu un passif en 2014 qui a été extrêmement compliqué, puisqu'il y a eu la fermeture du centre social. Et suite à cette fermeture, on a essayé de reconstruire quelque chose avec les habitants. Il y a eu une très forte mobilisation d'un petit noyau d'habitants au tout début, accompagné par la municipalité et donc par moi-même. Et aujourd'hui, quand on voit la dynamique existante, on est très satisfait. On se réjouit de cette volonté de la part des habitants de prendre toute leur part et leur place dans l'animation et les actions au sein du quartier. Donc on le voit d'un très très bon œil. On l'accompagne du mieux possible en mettant à disposition des moyens matériels, des moyens financiers, un accompagnement également moral, j'ai envie de dire. Le fait de les encourager, ça les incite à se mobiliser encore davantage. Et quand on voit la dynamique, ne serait-ce qu'aujourd'hui, là sur la journée des droits des femmes, on sent que il faut poursuivre cette dynamique et donc poursuivre cet accompagnement et ce soutien.
Alors Montréno, c'est aussi la création d'un GIP, d'un groupement d'intérêt public où les associations sont partie prenante, des structures aussi, des institutions, des financeurs. C'est aussi le fait de se mobiliser ensemble pour avancer. Là, quelle est la participation et le regard de la municipalité?
Eh bien, ce GIP, on l'a voulu sous une forme GIP, effectivement, un groupement d'intérêt public, où les financeurs, les institutions ont leur place, mais également les structures partenaires qui nourrissent les projets à destination des enfants, des jeunes et plus largement des familles ou des seniors, avec, bien évidemment, la participation des habitants. Donc nous l'avons voulu sous cette forme-là. Les habitants aussi ne voulaient plus du tout d'un centre social sous une forme associative pour pouvoir se débarrasser de la gestion bien trop lourde d'un centre social classique tel qu'on le connaît. Et aujourd'hui, sous cette forme-là, et bien, ça leur permet de se libérer de toutes les démarches administratives, financières, juridiques, où ils ne sont absolument pas professionnels et ils n'ont pas forcément non plus le temps de se former. changer, de se libérer également de toutes ces velléités, de prendre le pouvoir parfois quand on a un centre social au sein d'un territoire et de pouvoir se concentrer essentiellement sur le projet. Et la municipalité, avec d'autres financeurs, que ce soit la CAF, le département, mais aussi l'État, qui a été partie prenante pour la construction de ce GIP, nous, on s'occupe davantage à accompagner cette dynamique et on s'occupe davantage de ce qui nous revient, donc l'aspect financier, l'aspect juridique et l'aspect administratif. Donc on les libère, si vous voulez, de ces chaînes et les habitants, pour le coup, se concentrent davantage sur la communication avec les habitants, la prise en compte des besoins et des préoccupations des habitants. On les partage avec l'institution, avec la ville, et puis ensuite on fait en sorte de mettre en œuvre ces projets, parce qu'on sent que tous ces projets, ça contribue à créer du lien social, à créer de la solidarité, à créer de la cohésion sur des territoires tels que celui de Montréal, qui sont extrêmement importants. Et sincèrement, ça marche, parce que depuis maintenant 2019 qui existe ce nouveau centre social, eh bien, il y a un certain nombre d'actions, d'animations qui ont jalonné l'année et qui montrent à travers leur dynamisme, ces animations, tout cet engouement et cette nouvelle structuration, ce nouveau dynamisme qui est en train de s'opérer sur Moreno. Donc c'est très très positif, il faut qu'on le maintienne et qu'on le poursuive.
Alors on pourrait presque parler de lieu test finalement, de quartier test pour ce fonctionnement avec l'impulsion aussi du Conseil citoyen. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut être répété sur d'autres quartiers de Saint-Étienne ?
Alors, on admet du constat partagé des financeurs, mais également d'autres structures qui viennent nous voir pour manifester leurs difficultés sur le plan administratif, sur le plan de la gouvernance, sur le plan économique, de peut-être revoir parfois la forme du centre social ou de la structure d'éducation populaire. Si aujourd'hui Moreno fonctionne, nous ne sommes absolument pas contre dupliquer ce type de modèle ailleurs. En revanche, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. C'est des financements également. Le tout, c'est de pouvoir trouver une dynamique sur ces territoires avec un groupe d'habitants qui soit aussi prêt à s'engager tel que ceux qui s'engagent ici. Et parfois, c'est compliqué de trouver des bénévoles, parce que tout ça, hein, c'est fait à titre bénévole, gratuit. C'est compliqué parfois sur certains territoires de trouver des bénévoles qui souhaitent le faire pour l'intérêt général. Donc si demain c'est assez mûr sur certains territoires, si on a des centres sociaux qui veulent se transformer leur forme associative parce qu'ils ne s'y retrouvent plus sur la forme associative sous une forme de groupement d'intérêt public ou autre, on est prêt bien évidemment avec les financeurs à l'accompagner pour l'intérêt des habitants.
Eh bien, écoutez, merci d'avoir pris ce temps dans cette journée bien chargée pour vous pour répondre à nos questions. C'était dans le cadre du programme Parole de citoyens Radio Citoyenne proposé par Radio Dio et Radio Ondaine. Merci à vous.
Merci.